Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ma France Weekend. Le samedi, l'équipe de Paris Cité des Économies est sur le pont pour votre pouvoir d'achat. Dans 5 minutes, on va prendre la route avec cet objectif, dépenser le moins possible pour rouler. Mais d'abord, l'actu de ce samedi. Bonjour François Ventéjou.
Bonjour Valère, bonjour à tous. Une vague blanche va déferler dans Marseille cet après-midi pour rendre hommage à Mehdi Kessassi. Un grand rassemblement est prévu à partir de 15h dans la cité phocéenne, à l'endroit même où le petit frère du militant écologiste a été abattu le 13 novembre dernier. Amine Kessassi, qui lutte contre le narcotrafic, espère au moins 100 000 manifestants. Rémi Ing, par sécurité, ce n'est pas une marche, mais un rassemblement qui est organisé.
Oui, c'est bien un rassemblement statique qui est prévu. Les participants pourront marcher symboliquement dans un petit périmètre, mais en restant dans le quartier. La famille Kessassi demande de venir habillée de blanc et de ne brandir ni drapeau ni banderole. Le gouvernement sera représenté par sa porte-parole et par le ministre de la Ville et du Logement. Le maire de la ville, Benoît Payan, sera également présent, tout comme les prétendants à la mairie de Marseille, Martine Vassal et Sébastien Delogu. Concernant Franck Alizio, candidat RN, son équipe assure qu'elle sera présente au rassemblement. Pas de certitude sur la présence ou non du candidat. Une cinquantaine de responsables politiques feront le déplacement, du Parti Socialiste aux Écolos, du Parti Les Républicains aux Communistes. Éric Dupond-Moretti ou Dominique de Villepin sont également attendus. Tous les élus sont invités par la famille Kessassi à porter leur écharpe.
Et d'autres marches sont organisées dans une vingtaine de villes en France, comme à Tours ou encore à Bordeaux. En Isère, un homme a été placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle dans la disparition de sa femme. Le corps de Zaya, 27 ans, a été retrouvé calciné mercredi dans une voiture. Il pourrait s'agir du 5e féminicide cette semaine. Dans ce contexte, des rassemblements sont organisés dans une dizaine de villes en France, aujourd'hui à l'appel d'associations féministes. Elles demandent à l'État une révolution dans la politique de lutte contre les violences faites aux femmes. Un nouveau coup dur pour le gouvernement de Sébastien Lecornu la nuit dernière. Les députés ont largement rejeté la partie recette du budget de l'État pour 2026. Ça veut donc dire qu'on est très loin du compromis espéré par le Premier ministre. Désormais, le texte va poursuivre son parcours législatif, Pierrick Bonneau.
Faute d'adoption, c'est la version initiale déposée par le gouvernement qui part au Sénat. Tous les amendements votés ces dernières semaines vont donc être jetés à la poubelle. Les sénateurs auront tout le loisir de réécrire la copie gouvernementale, mais ce sont les députés qui auront le dernier mot avec un retour du texte à l'Assemblée mi-décembre. Le Premier ministre affiche toujours le même objectif, un compromis d'ici la fin de l'année, mais la méthode couée affichée par Sébastien Lecornu peine à convaincre son propre camp. Un cadre macroniste sourit, j'ai assez peu de raisons de croire qu'on aura une majorité en deuxième lecture alors que tout le monde s'oppose au texte en première lecture. Alors même si le chef du gouvernement refuse toujours d'y voir une solution, un scénario tient la corde. Une loi spéciale votée comme l'an dernier pour prolonger le budget 2025, faute de compromis. Un nouveau débat budgétaire devra alors être organisé début 2026.
Les explications de Pierrick Bonneau. Il est 13h03 sur votre radio locale ici. On en vient à l'ultime rendez-vous du 15 de France. Cette année, ce soir, il affronte l'Australie au Stade de France. C'est le troisième et dernier match de la tournée d'automne. Pour l'instant, les Bleus restent sur une victoire peu convaincante et une défaite accablante. Ils le savent, Fanny Lechevestrier, il va falloir afficher un tout autre visage.
Après avoir passé les deux dernières semaines à minorer leurs piètres prestations, les Bleus ont en effet changé de registre. Plus question de noyer le poisson. À l'image du Toulousain Thibaut Flamand, l'un des rares à chaque fois à faire face à la presse quand la maison bleue tangue.
C'est vrai que depuis le début, c'est un peu moyenasse. J'ai l'impression qu'on se régalait pas vraiment sur le terrain. Et du coup, c'est ce dont on a entre autres parlé en début de semaine. De prendre du plaisir, d'oser, de faire preuve de panache, de se régaler.
Et en milieu de semaine, cela s'est senti lors des entraînements. On a de nouveau entendu les joueurs se parler sur le terrain. Du bruit, de la vie à l'entraînement, cela paraît anodin, mais cela pourrait bien être les signes d'un malade en voie de guérison, confirme le deuxième ligne Toulouse.
Ça passe beaucoup par la communication. On sent que le jeu se fluidifie. Puis même, il y a un peu plus d'énergie, un peu plus d'euphorie.
À propos d'énergie, il y a un joueur qui en a à revendre. C'est le capitaine Grégory Aldrit, privé du match face à l'Afrique du Sud il y a 15 jours. Et en manque, dit-il, de Stade de France.
J'ai hâte de rentendre la Marseillaise ici. Il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a aussi de porter ce maillot bleu devant 80 000 personne, finir cette tournée en laissant tout ce qu'on a sur le terrain.
Sous peine de revoir poindre le débat, entre autres, d'un 15 de France, incapable de jouer sans son Antoine Dupont à la baguette.
France, Australie, coup d'envoi à 21h10. Et puis vous l'avez sans doute remarqué, un froid glacial enveloppe presque toute la France aujourd'hui. La neige devrait encore tomber ce soir, cette fois en Île-de-France, jusqu'à 7 cm sont attendus. La région est placée en vigilance orange, neige-verglas, à partir de 20h.
Ma France, week-end.
C'est ici.
13h06 sur votre radio locale. Ici, c'est l'heure du MAC de Ma France. Tous les samedis, on s'intéresse à votre pouvoir d'achat. Bonjour Valère.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif chaque semaine, vous redonner du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on va voir comment gérer au mieux les dépenses de carburant de nos voitures. Et on va tout vous dire avec notre invité. Bonjour Benjamin Cuc.
Bonjour Valère.
Vous êtes journaliste et chroniqueur spécialiste de l'automobile sur notre radio locale ici. Je vous propose de répondre à une première question d'une auditrice qui habite dans les Bouches-du-Rhône.
Bonjour, moi c'est Mélanie et je me pose la question suivante. Sachant que j'ai observé ces derniers temps que le prix de l'essence avait pas mal baissé, est-ce qu'on peut espérer que ça s'inscrive dans le temps, voire même que ça continue à baisser ?
Benjamin Cuc, alors ?
Je vais faire beaucoup de peine à Mélanie.
Aïe.
Non. Dans un monde fini, les ressources ne sont pas infinies et l'essence est tendanciellement à la hausse. C'est-à-dire que s'il fallait... Comparé, il y a 25 ans, l'essence valait à peu près 1 euro le litre. Aujourd'hui, on est à 1,80 euros.
Et ça va continuer, ça veut dire que inexorablement, le prix du carburant va poursuivre à la hausse, quoi.
Oui, pour une raison économique et une raison physique. C'est-à-dire que d'abord, de l'essence, il y en a une demande constante et croissante dans le monde entier. C'est-à-dire que plus les pays émergents vont demander de l'essence et du carburant, plus les prix vont être tirés vers le haut, parce que ça répond à leurs besoins et leurs nécessités de développement.
Bien sûr.
Et leur envie aussi, naturelle et légitime. Et ensuite, il y en a de moins en moins à extraire sur Terre.
Benjamin Cuc, on va essayer quand même d'optimiser le budget carburant. Alors, de notre véhicule actuel, qu'il soit thermique, électrique, puis on va voir ensuite si on a un projet d'achat. Première question toute bête, mais quand même assez existentielle. Si on roule avec une voiture thermique, où est-ce qu'on fait son plein ? Quel est le lieu le plus avantageux ?
Déjà, j'ai envie de vous dire le plus près de chez vous, parce que vous ne consommez pas le surplus de carburant. C'est-à-dire que si pour aller chez Intermarché, où c'est moins cher que chez Total, vous faites 15 km, vous allez consommer 30 km d'essence, c'est-à-dire 2 bons litres pour avoir économisé 10 centimes au carburant. Donc non, le moins cher, c'est d'abord le plus près de chez soi. Ensuite, effectivement, c'est souvent dans les hypermarchés où l'essence est le moins cher parce que ça reste un produit d'appel pour les hypermarchés.
Est-ce qu'on peut se fier aux cartes en ligne qui nous donnent le prix du carburant des différentes stations-service plus ou moins en temps réel ? Est-ce que c'est un outil fiable qui peut nous aider à trouver près de chez nous la station la moins chère ?
Ah oui, très bien. Au contraire, oui, je recommande. D'ailleurs, ici, notre radio locale adorée en a fait sur son site internet une retranscription.
Oui.
Comme il y a un autre site qui est très bien, qui s'appelle Zagaz, et toutes ces données viennent du gouvernement. Donc, elles sont relativement fiables et relativement mises à jour de manière quasiment continue.
Bon, on tape sur votre moteur de recherche, vous tapez carte des stations-service ici et vous allez tomber sur la bonne page. Alors ça, c'est quand on est à la maison. On prend l'autoroute aussi parfois. C'est cher, l'essence sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'on fait ?
On s'organise avant de partir, j'ai envie de vous dire. Le mieux, c'est de faire le plein avant de partir parce que globalement, une voiture thermique peut faire en moyenne jusqu'à 800 km. Donc, il n'y a personne qui fait un plein de 800 km, qui bouffe un plein de 800 km sur son seul trajet. Donc, le mieux, c'est effectivement de faire le plein avant de partir dans sa station habituelle et on tombe pas en nécessité de faire le plein sur une station service d'autoroute où là effectivement on va être à 10 à 15%, voire 20% plus cher que dans sa station habituelle, pour plein de raisons. D'abord, il y a la redevance d'autoroute à payer, en plus il y a l'acheminement parce que les stations d'autoroute sont quand même un peu au milieu de nulle part, et il y a les gens à payer, il y a plein de raisons qui font que les stations d'autoroute sont forcément plus chères que les stations de centre-ville.
Et ça peut valoir le coup d'utiliser les cartes dont on parlait qui sont sur internet et de sortir de l'autoroute et de re-rentrer pour aller faire un plein ?
Ah oui, ça peut tout à fait valoir le coup, sauf que il y a le temps de sortie de l'autoroute, elle n'est pas forcément immédiatement à côté. Pareil, là, si ça se rajoutait 10 km ou 15 km, c'est pas forcément nécessaire. Souvent, on peut s'arrêter dans une station d'autoroute juste pour se reposer. D'ailleurs, il est indispensable de se reposer toutes les 2 heures quand on fait un long trajet.
Vous faites bien de le rappeler parce que le carburant, c'est une chose, mais la sécurité, c'est encore plus important. Dites-moi, est-ce que c'est vrai que faire le plein, ça fait consommer plus et que c'est mieux au quotidien d'avoir un réservoir pas trop plein pour diminuer la charge de la voiture et qu'on transporte moins de poids finalement ? Ou c'est vraiment à la marge, on s'en fiche ?
Non, ça, c'est une légende urbaine.
Okay.
Par contre, ce qui est une réalité, c'est qu'il ne faut pas attendre la dernière minute quand la jauge s'allume et que le témoin de jauge s'allume pour faire le plein. Il faut aller faire le plein quand on est vraiment bas. avant la jauge qui s'allume, et ne pas attendre dès qu'elle s'allume, ne pas faire « Dieu, j'ai encore 80 km, c'est pas bon », parce que là, le moteur siphonne le fond de cuve du réservoir, dans lequel il y a des détritus, dans lequel il y a des résidus,
okay.
Et plutôt que des détritus.
Et c'est pas très bon pour,
c'est pas très bon pour le moteur. Hein, c'est
logique. On parle aussi beaucoup d'éco-conduite. Est-ce que ça, c'est un bon plan? Donc, l'éco-conduite, c'est vraiment de rouler plus cool, éviter les à-coups, les grosses accélérations. Voilà. Est-ce que ça, c'est un bon plan pour réduire sa consommation de carburant?
L'éco-conduite, c'est un truc qui a été inventé il y a une quinzaine d'années par des cabinets qui étaient spécialisés dans l'éco-conduite et qui proposaient des formations aux entreprises. C'était surtout pour vidanger, là pour le coup, pour vidanger des budgets formation des entreprises.
D'accord.
Ça n'a pas une réelle utilité, surtout avec les voitures modernes qui sont toutes ou presque équipées de boîtes automatiques. Aujourd'hui, c'est plus de 70% des ventes de voitures neuves qui se font en automatique. Donc, on a une conduite beaucoup plus douce. Par contre, ce que je recommande, c'est de conduire à 120 km/h sur autoroute au lieu des 130, parce que là, on a une consommation qui est nettement moindre que 130.
D'accord.
C'est la consommation optimisée sur un cycle autoroutier et de toujours se limiter à 90 ou 110 ou 120 et pas chercher à mettre des accélérations.
Parce que là, ça
biberonne.
Ouais, c'est l'expression, c'est pas mal. Ça biberonne. Bon, quoi qu'il en soit, rouler cool, c'est quand même mieux que de rouler par un coup et de mettre plein de coups d'accélérateur, j'imagine. On va quand même, notamment en ville.
Déjà en ville, parce que c'est la quiétude de tout le monde et notamment de soi, c'est un signe d'énervement, c'est pas utile, on consomme plus effectivement parce qu'on est énervé, on conduit n'importe comment. Si vous conduisez cool, slip slide in a way, comme chantait Paul Simon, c'est plus agréable pour tout le monde et surtout pour son porte-monnaie à l'arrivée.
Est-ce que pour nous aider à payer les frais de carburant, parce que si on parle de ce sujet aujourd'hui, c'est parce que ça coûte cher le carburant, c'est vraiment un poids dans le budget de beaucoup de familles qui doivent prendre la voiture, ils n'ont pas le choix de toute façon, le matin, le midi, le soir. Le covoiturage, c'est un bon plan pour partager les frais de carburant?
Oui, absolument. Okay. Oui, le covoiturage, c'est vraiment un bon plan parce que on peut monter jusqu'à 4 dans sa voiture ou 5 si on aime être serré à l'arrière, mais 4 sans problème, et surtout on se rend compte qu'une voiture est remplie à 1,5 passagers en moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde dans sa voiture. Il reste de la place. Donc si vous faites Paris-Oléron, par exemple, comme moi je le fais très souvent, c'est une bonne solution pour réduire les frais d'autoroute qui sont quand même très élevés. Les frais d'autoroute et de carburant sont quand même très très élevés. Et puis après, on peut rencontrer des gens très sympas, sa femme ou son compagnon, éventuellement. Moi, ça me paraît arrivé, mais bon, on peut rencontrer des. C'est l'occasion de faire des rencontres agréables.
Avec des plateformes, alors il y en a spécialisées sur les trajets plutôt ponctuels et d'autres plutôt quotidiens. Le plus connu, c'est BlaBlaCar Daily, par exemple, c'est ça. Et donc là, sur les trajets du quotidien, vous le recommandez aussi si on arrive à trouver chaussures à son pied, quoi.
Oui, c'est ça. Parce que la vraie difficulté, c'est quand on fait du quotidien, faut pas perdre de temps. Parce que si on perd du temps et qu'on attend parce que le type est pas arrivé, qu'on laisse moteur tournant, le gain de consommation est assez réduit. Mais ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout qu'après, c'est du stress. Et puis, il faut que ce soit fluide et efficace. Parce que sinon, c'est la meilleure vaccination pour la chose. C'est-à-dire que si vous faites un blabla car daily ou un autopartage vous voulez, comme un plan long comme on veut, et que le type ou la nana qui vient est toujours en retard ou pas ponctuel, et le problème, c'est que derrière, on n'a plus envie de le faire, quoi. C'est un vaccin. Faut que ce soit bien organisé, bien structuré avec des gens sérieux.
On parle beaucoup de l'éthanol. Est-ce qu'on peut passer du diesel ou du sans-plomb à l'éthanol? Et est-ce que ça vaut le coup?
Du diesel à l'éthanol, pas question. Ça n'est pas possible. Il y a un carburant qui est le biodiesel, mais qui est réservé aux agriculteurs.
Ok.
Mais il n'y a pas de biodiesel pour les consommateurs comme vous et moi.
D'accord.
Mais l'éthanol, tout à fait, sur une voiture moderne.
Essence
vers éthanol. On peut passer à l'éthanol sans problème. Il suffit de faire installer un kit d'homologation, un kit homologué. Et l'avantage, c'est que ce kit homologué, dans bien des régions, notamment l'Île-de-France ou le Nord, je crois, bénéficie, et l'Est aussi, les régions Grand Est, bénéficie d'aides et de subventions pour l'installation.
Ouais, parce que c'est cher l'installation. Enfin, c'est un budget, j'imagine.
C'est 800 euros, mais c'est amortissable assez rapidement. Dès qu'on conduit plus de 15 000 km par an, c'est amortissable, je crois, en 2 ans. Et à 17 000 km, c'est amortissable en 1 an ou quasiment.
Okay. C'est vraiment très, très vite. Si on a en plus une subvention, alors là, c'est top.
C'est top, ouais. Et surtout, parce qu'une bonne raison, c'est que le bioéthanol, c'est moins de 80 centimes le litre, entre 70 et 80 centimes le litre, tandis que l'essence, c'est 1 euro de plus. C'est...
Ouais,
là, il y avait un projet dans le projet de loi de finances de réduire l'avantage fiscal du bioéthanol, et le législateur, dans son infinie sagesse, a décidé de suspendre cette évolution, sachant que l'État a décidé de donner l'exemple pour une fois. Le ministère de l'Intérieur va équiper 40 000 de ses véhicules de kits éthanol pour les permettre de rouler moins cher.
Par contre, on ne roule pas à l'éthanol sans ce kit éthanol. Enfin, il peut y avoir soit des problèmes ou des questions peut-être de garantie. Enfin, de,
oui.
De...
On peut perdre sa garantie, c'est un peu risqué, mais moi, je ne le recommande pas. Mais j'ai des amis qui sont comme tout le monde, hein, qui sont en galère de sous et qui sont à 50 euros près par mois, et qui me disent, de temps en temps, je fais un plein à l'éthanol. Tous les trois pleins de super, je fais un plein à l'éthanol ou l'inverse, et c'est bon, ma voiture, elle supporte. Hein. Je pense notamment à mon copain Karim, qui fait la moitié d'éthanol, la moitié de super, et qui est dans sa Ford Ka, roule très très bien avec.
Notre expert aujourd'hui, Benjamin Cuc, spécialiste auto hein, de votre radio locale ici. Benjamin, le GPL, c'est intéressant si on veut changer de voiture ?
C'est intéressant, mais...
On n'en parle pas tellement.
En fait. Non, on n'en parle pas tellement, parce qu'il n'y a pas une offre immense, à l'exception de Dacia. Dacia fait une offre... tous ces véhicules sont vendus avec une solution GPL, c'est-à-dire qu'on peut acheter une Dacia avec une prise GPL dedans, c'est-à-dire que c'est deux réservoirs.
Okay.
Faut pas avoir peur, hein. C'est un réservoir essence plus un réservoir GPL, et le GPL, c'est le même coût que l'éthanol, c'est vraiment pas cher, c'est monté de série, c'est pas dangereux, on se souvient qu'il y a 25 ans, il y avait des risques d'explosion dans les parkings, mais en fait, c'était des systèmes qui étaient montés à la va comme je te pousse et qui n'étaient pas des systèmes vraiment homologués. Le système Dacia, il est économique et économique et bien fait et solide, résistant, il est durable. Et donc ça, c'est vraiment une solution très intéressante. Par contre, il n'est pas possible, ou il est très difficilement possible, de monter en post-équipement un GPL.
Okay.
Ça vaut pas le coup.
Et donc le GPL, l'éthanol, en plus, c'est des solutions plus écologiques, hein, plus sobres peut-être aussi pour l'environnement, et ça, c'est bon à prendre.
Oui, le bioéthanol, oui, clairement, parce que c'est un résidu en France, c'est un résidu principalement de raisin. Et tandis que de raisin et de blé, de betterave, tandis que le GPL, c'est un détritus,
c'est fossile,
c'est moins bien.
Bonjour Anne.
Oui, bonjour.
Bienvenue, vous habitez à Brignoles. Alors vous roulez à l'électrique hein, depuis quelques années.
Oui, tout à fait.
Et alors ça va, ça se passe bien, vous avez fait le grand saut.
écoutez, oui, en fait, j'avais une vieille de diesel, donc j'ai dû changer à l'époque pour la première Zoé. Ensuite, j'ai eu la deuxième Zoé, et là, j'ai une Twingo. Bon, je ne vais pas faire de la pub, mais quand même, c'est du français, donc tant qu'à faire.
Voilà. C'est noté. Et comment vous gérez la recharge ?
Alors, moi, j'ai la chance d'habiter, j'habite à la campagne, du coup, j'ai une petite maison, et donc j'ai une prise... Green Up qui a été installé par un installateur agréé, un électricien. Entre parenthèses, du coup, pour ça, on a une subvention de l'État, donc c'est pas mal. Des fois, les constructeurs offrent la prise Green Up pour qu'on soit installé dans les règles. Et donc, moi, je recharge la nuit chez moi, donc aux heures creuses.
Bah oui. Faites attention parce que ça va changer, hein, les heures creuses. Surveillez, pas pour tout le monde tout de suite, mais dans les 12 mois qui viennent, les horaires vont changer, donc soyez vigilante.
Surenseignez, pour le moment, c'est bon.
Nickel. Ouais. Et vous avez fait le calcul, alors, Anne, vous êtes du côté de Brignoles, hein, ça vaut le coup financièrement ?
Ah ben financièrement, oui, c'est sûr que par rapport à l'essence ou au diesel, il n'y a pas photo, quoi. C'est vrai que moi, je m'étais renseignée au départ, on m'avait dit, bon, il faut compter à peu près... 3 euros des 100 km, mais c'est bien moins que ça. En fait, l'idée, c'est que c'est vrai que moi, j'ai une petite voiture citadine. Alors après, effectivement, avoir un 4x4 électrique, ça doit dépenser beaucoup plus, parce que simplement, c'est plus lourd à déplacer.
Benjamin, une question pour vous, je crois, une remarque. Oui.
Vous êtes à combien de consommation au 100? Vous avez regardé en kilowatts? Vous êtes à 13 kilowatts, 14 kilowatts, un peu plus?
Alors moi je suis aux alentours de 11-12 parce que 11-12. J'ai une conduite apparemment assez éco.
Vous n'avez pas le pied lourd.
Je prends très peu l'autoroute.
Bah, c'est l'éco-conduite quelque part.
Voilà. Vous n'avez pas le pied lourd, hein, madame. C'est formidable. Et nous, en plus, effectivement, comme c'est 27 kilowatts, la batterie de la Twingo, vous avez 250 vrais kilomètres.
Et ça,
250 kilomètres. Et puis, vous, effectivement, à 17 centimes le kilowattheure, vous êtes vraiment très économique.
Merci beaucoup, Anne, en tout cas, pour votre témoignage.
Avec plaisir.
Un grand merci à vous aussi. Et j'en profite pour vous rappeler, chers auditrices, auditeurs, que nous sommes là pour vous aider hein, avec ce mail pour nous écrire. On attend vos questions et vous pouvez participer à l'émission en m'écrivant. C'est par ici leséconomies@radiofrance.com. Peut-être que vous roulez parfois le coffre vide. On a trouvé pour vous un bon plan. Une société vous paye pour transporter des colis en fonction de vos trajets. On vous dit tout dans un instant. Julien Doré, Porto Vecchio sur votre radio locale ici.
Ici,
avec Valère Coréard,
par ici les économies.
En version magazine, le thème aujourd'hui, comment rouler en voiture sans se ruiner. Benjamin Cuc, journaliste, chroniqueur, spécialiste de l'auto sur notre radio locale ici est avec nous. Et Johan Rico, cofondateur de Shopopop, nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Shopopop.com, c'est votre site. Qu'est-ce qu'on peut faire alors avec les services que vous proposez en tant que particulier, si notamment on veut trouver un petit revenu d'appoint?
Eh bien, vous pouvez effectivement améliorer votre pouvoir d'achat, comme on dit, en pratiquant ce qu'on appelle du co-transportage. C'est ni plus ni moins que de la livraison entre particuliers, où vous allez pouvoir, sur un de vos trajets du quotidien, récupérer des courses, un colis, des produits au départ d'un magasin, les déposer sur votre route à quelqu'un qui habite à côté de chez vous, et en contrepartie de ce service, vous allez récupérer 5-6 euros, donc c'est une petite contribution pour le service que vous rendez, et puis ça permet de pallier à des frais de carburant, des frais d'usure de la voiture, ce genre de choses.
Donc vous nous facilitez la vie en trouvant finalement des missions à faire les plus proches possibles des trajets qu'on fait, si je comprends bien.
Alors nous, notre mission, c'est vraiment de créer la relation, de mettre en contact un destinataire, un client qui a effectué un achat avec une personne qui, elle, va se déplacer et va avoir la volonté de rendre service.
Et en moyenne, on peut gagner combien si on est un utilisateur lambda, c'est-à-dire on va pas faire celui qui se professionnalise, mais si on l'intègre dans notre quotidien normal?
Aujourd'hui, à l'échelle d'une année, c'est l'équivalent de 300-400 euros par an.
Bon, voilà, donc ça fait un petit revenu d'appoint. Côté assurance, on est couvert, tout va bien?
Dès lors que vous êtes, on va dire, dans les cadres de la loi avec une assurance pour votre véhicule, un permis, etc., il n'y a aucun souci.
Bon, c'est extrêmement clair. Donc, shopopop.com. Et il n'y a pas non plus d'enjeu de capacité du véhicule ou autre. On utilise celui qu'on utilise tous les jours. On peut venir avec notre voiture ou là, la Twingo, je crois que c'était de Anne, par exemple.
Exactement. En fonction de la typologie des produits, nous, on vous donne les informations dans l'application. Donc, tout est indiqué.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Johan Rico, cofondateur donc de Shopopop, ce qui vous permet à vous qui nous écoutez peut-être d'avoir une idée, un petit revenu complémentaire, parce que 30-40 euros dans le mois, c'est toujours ça pour donner un coup de pouce au budget pour ce carburant. On a vu pas mal de choses ensemble, hein, Benjamin Cuc, journaliste, chroniqueur, spécialiste de l'auto sur notre radio locale ici. Alors avant de nous quitter, moi j'aimerais que vous vous prêtiez au jeu de notre quiz, c'est le vrai faux, pour finir avec les idées bien claires sur ce thème du carburant. Première question, vrai ou faux? Rouler doucement ne fait pas tellement économiser de carburant.
Faux, moins vous avez le pied lourd, plus vous économisez de carburant.
Vrai ou faux, rouler avec une vieille voiture consomme forcément plus qu'avec une voiture récente?
Vrai, mais n'oublions pas que la voiture la moins chère, c'est celle qu'on ne produit pas.
Passer du sans-plomb à l'éthanol, c'est risqué, vrai ou faux?
Non, c'est sans danger. Avec un kit ou même sans kit, il n'y a pas de danger majeur.
Et là, on va rappeler à ça pour celles et ceux qui nous écoutent, vérifier s'il n'y a pas une subvention si vous voulez passer, parce que peut-être qu'il y en a une locale ou régionale. Vrai ou faux, un véhicule électrique coûte moins cher en carburant que tous les autres?
C'est vrai, et même quand on veut passer à l'occasion, les véhicules électriques sont beaucoup moins chers que les véhicules thermiques. Il y a une défiance vis-à-vis de l'électrique parce qu'on craint que ça n'ait pas assez d'autonomie ou je ne sais quoi. Mais c'est beaucoup plus intéressant d'acheter un véhicule électrique. Moi, j'y suis passé. J'avais une vieille Skoda thermique à l'île d'Oléron. J'ai fait cet été 3 pleins à 100 euros chacun. Je l'ai remplacé par une électrique d'occasion là que je viens d'acheter.
Et donc, ça vaut vraiment le coup sur le plan du budget. Alors ça, c'est une vraie question quasiment existentielle. Hein. Vrai ou faux, il faut faire chauffer le moteur de sa voiture avant de partir pour moins consommer.
Ça, c'était dans les années 70. Ça, c'est pour les gens ça date des mérovingiens, comme je dis. C'est vraiment, c'était pour les diesels, les vieux diesels qu'il fallait préchauffer avec les bougies de préchauffage.
C'est pas la peine, quoi.
Non, c'est vraiment plus la peine.
Ok, c'est noté. Et puis, Benjamin, dernière question. Vrai ou faux? Chauffage, clim, fenêtres ouvertes font vraiment consommer plus de carburant?
Ah oui, vraiment beaucoup plus. La clim, beaucoup plus. Le chauffage, moins. Le chauffage, moins, parce qu'on reçoit la chaleur du moteur, mais moins. Mais oui, reste, oui.
C'est noté. Benjamin Cuc, merci beaucoup. Vous êtes journaliste et chroniqueur spécialiste de l'auto sur notre radio locale ici. Merci pour tous ces éclairages. J'espère que vous y voyez plus clair, vous qui nous avez écoutés. Pour réécouter d'ailleurs l'émission, la partager aussi avec vos proches et les faire profiter de toutes ces infos pratiques pour payer moins cher quand on roule, le carburant notamment, eh bien c'est sur ici.fr. La semaine prochaine, on va s'intéresser aux achats en ligne, code promo, cashback, achat groupé. Vous saurez tout. À suivre, des infos près de chez vous et votre après-midi en musique sur votre radio locale ici.